secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux Jeux paralympiques en ce qui concerne les épreuves d'athlétisme. À l'origine, le nom paralympique était une combinaison de paraplégique et de olympique. Avec la participation d'athlètes avec différents handicaps, le terme paralympique est aujourd'hui défini comme la réunion de para, préfixe d'origine grecque signifiant à côté de, et de la terminaison lympique des Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques sont ainsi considérés comme solidaires des Jeux olympiques. Revenons aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. 4400 athlètes et presque autant de handicaps. Les sportifs sont rassemblés sous trois catégories: physique, déficience visuelle et handicaps mentaux. Pour garantir l'équité dans les épreuves, les athlètes sont soumis à une classification. Le principe est simple: à travers un examen par un médecin ou un technicien du sport concerné, on évalue l'impact du handicap sur les performances de l'athlète. Si tous les sports paralympiques sont régis par ce système de classification, celui-ci est différent pour chaque sport. Les aptitudes physiques demandées ne sont pas les mêmes, et un handicap n'affectera pas un athlète de la même façon selon le sport pratiqué. Dans chaque sport, les classes sont désignées par une lettre pour la discipline et un chiffre pour le degré de handicap. Plus il est important, plus le chiffre est bas. D'où viennent les Jeux paralympiques ? Un peu d'histoire. Le 28 juillet 1948, dans la cour d'un hôpital de la banlieue londonienne, à Stoke-Mandeville précisément, se tiennent, assis sur des chaises roulantes, 16 archers, 14 hommes et 2 femmes. Ils sont tous blessés de guerre, handicapés ou paralysés, et ils sont là pour participer à une compétition sportive. À leur côté, un petit homme bourru, fine moustache, lunettes toutes rondes. C'est le chef d'orchestre de cette manifestation sportive inédite. Il s'appelle Ludwig Gutmann, un neurologue à la réputation mondiale, qui s'est donné pour mission de faire changer le regard de la société sur les handicapés. Et pour cela, il a choisi le sport. Conscient, dès 1944, qu'il faudrait prêter attention après-guerre à ces soldats invalides, et de manière plus efficace bien sûr qu'en 1918, le gouvernement britannique a fait appel à un neurologue allemand de renommée mondiale, le docteur Ludwig Gutmann. Il est nommé responsable d'un centre national des blessés de la moelle épinière à l'hôpital Stoke-Mandeville, tout proche de Londres. Ludwig Gutmann est né en 1899, issu d'un milieu modeste. Infirmier en 1917, il s'est hissé dans la société allemande jusqu'à devenir médecin en 1924. Ses premiers stages de médecin se font à Königsgrätz, premier hôpital au monde dédié aux accidents du travail. Lors de la prise de pouvoir des nazis en 1933, les médecins juifs sont interdits d'exercice dans les hôpitaux civils et il prend un poste de neurologue à l'hôpital de Breslau en 1933 et en devient le directeur médical en 1937. Il est le témoin d'autodafés de livres de scientifiques non-ariens et témoigne des victimes de la nuit de cristal en novembre 1938, ce qui lui vaut un interrogatoire de la Gestapo. Il se décide enfin à s'exiler en 1939. Sa famille et lui obtiennent des visas pour l'Angleterre. Il est fait citoyen britannique en 1945. C'est là, au Royaume-Uni, qu'il passe toute la guerre avant de diriger cet hôpital de grands blessés, où il décide de mettre ses jeunes patients au sport. Avec une idée en tête, organiser des Jeux mondiaux, des chaises roulantes et des amputés. Après 3 ans d'efforts, Gutmann touche au but. Il organise les Jeux de Stoke-Mandeville, première compétition nationale, le 28 juillet 1948, veille des Jeux olympiques d'été à Londres. Seul le tir à l'arc et le basket étaient alors pratiqués. Ludwig Gutmann a voulu montrer aux handicapés du monde entier qu'ils étaient capables d'exploits sportifs pour se réinsérer dans la société. En 1960, ont lieu les premiers Jeux paralympiques d'été à Rome. 400 athlètes y participent. À cette occasion, le pape Jean XXIII surnomma Guttmann le « De Coubertin des paralysés ». Souvent dans la même ville que les Jeux olympiques et juste après, ces Jeux paralympiques sont réédités depuis. Aujourd'hui, la Fédération française d'handisport, créée en 1954, propose plus de 40 sports aux 25 000 pratiquants de ses 600 clubs. Comme on pouvait s'y attendre, la Chine est aujourd'hui la nation dominante et de très loin du handisport. Dans le milieu paralympique, on l'appelle le Blade Jumper, en référence au film de science-fiction de Ridley Scott, Blade Runner. Marcus Rehm court vite, mais surtout il saute très haut, très loin, très fort, comme la devise olympique, Situs, Altius, Fortius. À Londres, en 2012, Marcus Rehm découvre Oscar Pistorius, le coureur de 400 mètres sud-africain, lui aussi amputé et lui aussi équipé d'une prothèse aux deux jambes. Son combat commence. Il veut concourir avec les valides. Un pari gagné en 2014 au championnat d'Allemagne par Marcus Rehm, qui est aujourd'hui à Tokyo, champion paralympique du saut en longueur. L'affaire Oscar Pistorius, du nom du premier athlète médaillé parmi les valides, The Blade Runner, l'homme aux lames, condamné pour le meurtre de sa compagne dans toutes les têtes. En 2013, Oscar Pistorius a été condamné à 6 ans de prison ferme, et c'est en 2013 que décède Nelson Mandela, dit Madiba, le père de la nation sud-africaine, à l'âge de 95 ans. En Afrique du Sud, on compte environ 20 000 meurtres par an, 30 tentatives de meurtre, plus de 50 000 viols. Presque tous les habitants d'Afrique du Sud ont une fois dans leur vie fait l'expérience directe de la criminalité et de la violence. Maintenant, focus sur Antonin Keita, qui a disputé à Tokyo son dernier 400 mètres avant de prendre sa retraite. La franco-malienne, malvoyante de naissance, a remporté la médaille d'or du 400 mètres dans la catégorie T13. Elle est issue d'une illustre lignée, puisque son père descend de Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, lequel fut l'un des plus puissants d'Afrique, réputée jusqu'en Europe pour ses mines d'or. Elle atterrit en Seine-Saint-Denis à l'âge de 2 ans. En 1997, elle est repérée par un professeur d'EPS. À 36 ans, elle est en équipe de France depuis 20 ans. Comme son père, elle utilise sa notoriété au Mali pour favoriser la scolarité des enfants albinos et combattre les superstitions qui mettent leur vie en péril. Ses médailles d'or dépassent la distance d'un simple tour de piste. 55 secondes aux 400 mètres. Ça donne une course à un peu plus de 26 km/h. Voilà la vitesse de Antonin Keita en 2016, quand elle a remporté la médaille d'or aux Paralympiques de Rio. Elle en avait déjà 2 en bronze, 1 en argent. Elle court vite, Antonin. Et si elle court aux Paralympiques, c'est parce qu'elle est née albinos. Au-delà de la peau blanche et fragile, une des conséquences de l'albinisme est bien souvent une grande déficience visuelle. Antonin est malvoyante. Antonin est la fille de Salif Keita. Né dans une famille de princes, il voulait faire de la musique. Il a été rejeté par sa caste. Aujourd'hui, ses chansons sont écoutées dans le monde entier. Lui est aussi né albinos. Avant de le chanter, il a souffert de son handicap. Alors, quand Antonin, sa petite fille, elle aussi albinos, a eu 2 ans, il l'a envoyé en France. Autre regard sur le handicap avec Pierre Fairbank, le vétéran natif de Nouvelle-Calédonie, en quête d'une 9e médaille paralympique en sprint en fauteuil. C'est l'un des plus beaux palmarès du sport français. À 50 ans, le Caldoche fait partie des vétérans de l'équipe de France handisport. Sa spécialité est le sprint en fauteuil sur 100 mètres, 400 mètres et 800 mètres, catégorie T53, réservée aux athlètes qui utilisent uniquement la force de leurs bras. Il avait perdu l'usage de ses jambes à 9 ans après avoir contracté la poliomyélite. C'est par hasard qu'il a eu vent de la course en fauteuil alors qu'il était en salle d'attente de son kiné. À l'époque, la discipline est assez balbutiement, les fauteuils ne sont pas encore profilés. Aujourd'hui, ce sont bolides en Kevlar ou carbone, 3 roues, pouvant atteindre une vitesse de 35 km/h. Pierre Fairbank ne pèse que 50 kg, mais il a des bras et des épaules surpuissantes. la référence actuelle de ce qui se fait de mieux au monde est le Québécois Bren Lakatos. Mais la France, grâce à Fairbank et le centre d'entraînement du handisport français à Nouméa, semble petit à petit combler son retard. Comme est pris en compte, petit à petit, une meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap, d'une manière générale, l'inclusion sociale. Au-delà de situations extrêmes, la résilience et la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité, et la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme, selon les termes du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Elle est au cœur du mental des champions. Cyrulnik a dit « Plusieurs années passées à accompagner certains de nos plus grands champions et championnes, valides et handicapés, m'ont appris que certains d'entre eux, et non des moindres, étaient porteurs de blessures et que celles-ci étaient, pour une part non négligeable, à la source de leur succès. » Pour l'enfant timide et incapable de se défendre, qu'était le champion d'Europe du 100 mètres, médaille de bronze sur 200 mètres à Rio 2016, le sprinteur Christophe Lemaître, le sport a été un outil d'affirmation et de restauration de l'estime de soi. Face à des souffrances physiques, le sport et le club deviennent une base de sécurité et d'expression qui évite à l'athlète de rester figé dans une sorte de peine muette. L'effort physique a un effet cathartique, apaisant et libérateur, comme les pleurs. Vient d'être réédité le livre « La ligne droite » de Yves Gibeau, préface de Philippe Delerme, qui rappelle qu'on n'a jamais rien écrit de mieux sur l'athlétisme et sur sa distance reine, le 800 mètres. « La ligne droite », écrite en 1956, évoque l'histoire d'un coureur allemand de 800 mètres qui a perdu un bras pendant la guerre sur le front soviétique et qui renaît à la vie grâce à la course à pied. Son auteur, Yves Gibeau, né en 1916 et décédé en 1994, qui a beaucoup écrit sur l'épreuve de marche Paris Colmar ou sur Louison Bobet, était antimilitariste. Fasciné par la Première Guerre mondiale et est enterré à côté de Nobu de 75 dans le cimetière de l'ancien Craon sur le chemin des Dames, village totalement détruit pendant la Première Guerre mondiale. Comme il l'a souvent dit et écrit, il a fini par rejoindre son paysage.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.